Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine démarre, alors il y en a qui sont confinés. Je suis désolé pour vous, je pense que ça va peut-être nous arriver à nous aussi, puisque tout le monde se barre de son département pour aller dans ceux qui ne sont pas confinés, donc je pense que ça va nous arriver aussi. Bon, courage à tous ceux qui sont de nouveau verrouillés, c'est compliqué. Mais bon, on commence à être un petit peu armé pour ça. Alors, autre chose, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? Oui, ce week-end, j'avais envie de vous parler d'un petit truc rapidos, parce que en bon pratiquant de fitness, muscu, tout ça, je suis également fan. C'est un grand mot, fan, hein, mais j'aime bien les films d'action type Marvel et tout ça. Alors, fan. Marvel, moyen. DC Comics, un petit peu plus. J'ai même quelques BD. Ah oui, des BD, vous savez, comment on appelle ça, les nerds, les geeks, voilà. Donc, j'ai même quelques BD. Et en fait, ce week-end, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu, le nouveau... Enfin, je ne pense pas que vous l'avez vu, parce que ça vient juste de sortir. Le Justice League, avec les rushs, les scènes de Zack Snyder. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est un nouveau montage du film de Justice League. Alors, c'est quoi ? C'est le réalisateur, le producteur, réalisateur ? Non, oui, c'est réalisateur Zack Snyder. Et j'avais détesté le film initial, donc celui qui est sorti, je sais plus quand c'est ce que c'était, mais en quelle année il était sorti, je vais regarder rapidos, en 2017, j'avais pas du tout aimé, et par contre celui-là, j'avoue qu'il est pas mal, alors il dure 4 heures, hein. Donc 4 heures, ça commence à faire un peu long. Je crois c'est sur HBO Max qu'il est dispo en je sais plus comment on appelle ça, en SVOD. Et donc du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce que vu que le film dure 4 heures et que je l'ai trouvé pas trop mal, eh ben, en temps de couvre-feu et de confinement, ça aide à faire passer le temps un peu plus rapidement. Alors, moi perso, je ne l'ai pas regardé d'une traite parce que 4 heures, j'ai jamais regardé Le Seigneur des Anneaux, tous ces trucs-là. Moi, 4 heures devant la télé, au bout d'un moment, je ne sais plus dans quelle position me mettre. Donc, je l'ai regardé un petit peu vendredi soir et je l'ai terminé en faisant mon cardio le lendemain matin. Ouais, non, c'est pas mal. Alors, par contre, faut être. C'est beau. Il y a beaucoup moins de scènes d'action. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il est beaucoup plus lent, en fait. Mais on voit beaucoup plus l'histoire de chaque personnage dedans. Et je le trouve bien. Voilà. Après, est-ce que ça va être un film dont on va se souvenir longtemps ? Je sais pas. Mais si vous avez détesté Justice League, donnez la chance à celui-là. Donc, c'est Zack Snyder, Justice League, ça s'appelle. Donc, voilà. C'est sorti, je sais pas quand est-ce que c'est, 18 mars. Moi, je crois que je l'ai vu dès que j'ai eu la notification, je me suis dit, tiens, je le regarde. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience le prochain Batman avec le gars de Twilight, là, Robert Pattinson, acteur que je n'aimais pas trop, mais depuis Tenet, le film, j'ai pas trop aimé d'ailleurs, mais je trouve que l'acteur joue bien dedans, Robert Pattinson. Donc je suis quand même assez curieux de voir, je vais donner sa chance, parce que Ben Affleck, j'avais pas forcément aimé. Voilà. Et j'avais d'ailleurs fait un podcast en parlant du nouveau Batman, donc de Robert Pattinson, qui refusait de s'entraîner et tout ça. Contrairement à comment il s'appelait, Christian Bale, qui... petite histoire d'ailleurs, là je pars en vrille, hein, pour le début du podcast, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Christian Bale, quand il a été choisi par Christopher Nolan pour faire le Batman Begins, donc le premier, en fait, ceux qui aiment vraiment Batman, certainement, leur film préféré, c'est au moins les deux premiers de Christopher Nolan, pas le troisième, donc Begin et Dark Knight. Et en fait, quand ils sont allés chercher Christian Bale, Christopher Nolan. Déjà, la Warner Bros. Voulait pas de. Ils ont dit, attends, tu veux pas prendre plutôt Ashton Kutcher? Il est bankable en ce moment et tout. Il a dit, dada, ça va pas ou quoi? On va prendre ce gars-là. On va prendre Christian Bale. Et en fait, Christian Bale sortait du film The Machinist, je crois, où il était, mais squelettique. Enfin, je veux dire, il était maigre, mais il y a même des rumeurs qui disaient qu'il mangeait une pomme et une boîte de thon par jour. Enfin bon, le mec, il était, mais squelettique. Il lui a dit, bah là par contre, il faut que tu foutes le costume de Batman, donc il va falloir que tu te remplumes un petit peu. Pas de problème, il s'est mis à manger un repas toutes les deux heures, à s'entraîner comme un acharné, sauf qu'il est arrivé pour le premier jour de tournage, et Christopher Nolan, il a dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, tu rentreras plus dans le costume, là c'est pas possible, il pesait 100 kilos. Donc en 15 jours, 3 semaines, il a réussi à retomber à 90 kilos. Et là, il avait le physique de Batman. Voilà, bon, petite anecdote. Christian Bale sait faire une sèche et une prise de masse. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, produit ! Mais non, je pense pas. Quand tu vois son physique, il a rien de... Enfin, si lui, il en prend, toute la planète en prend. Hein. Il faut pas... Il y a un moment donné, il faut être un petit peu les pieds sur terre et arrêter d'être dans la culture de la médiocratie, comme ils disent, ou... Non. Là, ce qu'il a eu, lui, comme physique pour le rôle, les gars, je vous le dis, vous pouvez y aller franchement, vous pouvez l'avoir, son physique. Hein. Il n'y a pas de... Et puis même s'il en a pris, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'inatteignable, etc., etc. Bref, alors le deuxième film que je vous recommande, qui n'a rien à voir avec le fitness, hein, mais je sais pas pourquoi ce matin j'ai envie de parler de film. Il y a un deuxième film que ça faisait longtemps que j'avais envie de le voir, et franchement j'ai vraiment pris mon pied à le regarder. Je l'ai regardé samedi soir. Ça s'appelle Kiss Kiss Bang Bang. C'est avec Val Kilmer et Robert Downey Jr. Et ben ce film m'a vraiment fait rire. Alors c'est un peu space. Mais surtout le début, on a du mal à se dire mais où est-ce qu'ils veulent nous amener. Et franchement, je me suis bien amusé. Un bon petit film d'auteur. Enfin, je crois que c'est un film d'auteur. Après, je suis pas du tout expert en cinéma ni rien. Ceux qui sont experts pourront me reprendre. Mais c'est un très bon film. Il est disponible sur. Je sais pas s'il est disponible sur Prime ou je sais plus sur quoi je l'ai vu. Mais il est disponible. Voilà. Si vous cherchez un petit peu, vous le trouverez. Bon, on passe à. Dans le dur, on va parler un petit peu de fitness et tout ça. Ça y est, ça démarre. Donc, la première chose, c'est que ce week-end, j'ai sorti une formation qui s'appelle Kettlebell, un mouvement pour sécher et galber son physique. Pourquoi j'ai fait cette formation ? Parce que ça fait longtemps que je... Enfin, longtemps, ça fait plus d'un an que je me suis intéressé au Kettlebell. J'ai essayé de simplifier au maximum, d'essayer de trouver ce qui pouvait me convenir. Parce que vous savez, souvent, on dit Kettlebell, c'est une salle de muscu dans un seul équipement. C'est la magie, c'est les entraînements en rue, c'est les trucs de la préparation physique des forces spéciales, des machins, des... Bon, beaucoup de discours autour de tout ça. Moi, en fait, j'en ai rien à foutre. J'ai tout le matos pour m'entraîner, donc j'ai barre, halter et tout à la maison, enfin tout. Non, j'ai pas des machines de muscu, mais j'ai suffisamment de matos pour bien m'entraîner. Je suis pas naïf. Un kettlebell le remplacera pas tout ce que j'ai. Par contre, un mouvement particulier que je peux faire avec kettlebell est pas facile à faire avec le reste de mon équipement. Et moi, en bon expérimentateur, je me suis tué sur ce mouvement, à en faire beaucoup. Et franchement, j'ai eu des bons résultats, notamment fessiers, ischio, bas du dos. Et j'ai fait une formation pour vous en parler, pour tout vous détailler sur ce truc-là. Alors, si vous avez envie, par exemple, de mettre vraiment un coup de collier sur la dépense calorique, allez voir. Franchement, ça vaut le coup. Si vous vous entraînez à la maison et que vous avez remarqué que depuis que vous êtes passé d'un entraînement en salle à un entraînement maison, vous avez le fessier moins galbé, vous arrivez moins à taper dans vos ischios et vous avez le bas du dos qui stocke un petit peu plus de graisse, allez voir cette formation et allez voir ce mouvement. Franchement, ça vaut le coup. Enfin, moi, je sais que depuis que je l'ai inclus, j'ai réussi à corriger ce problème. Alors, en 3 semaines, j'ai eu les premiers résultats, mais vraiment visibles. C'est-à-dire que, bon, après, j'ai un background de muscu, mais 3 semaines, ça m'a suffi réellement hein, pour rattraper ce que l'entraînement à la maison m'avait, je vais pas dire détérioré, mais m'empêchait un peu de travailler. Donc c'est toujours comme ça qu'on progresse en testant et tout. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé mon pied avec ce truc-là, à la fois sur la dépense calorique et à la fois sur justement ces zones musculaires que j'avais un petit peu du mal à cibler à la maison, ou en tout cas pas de cette façon-là. Donc vous avez un lien dans les notes de l'émission. Voilà, donc si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description. Il y a un petit onglet, enfin un petit lien pour aller voir les notes et les références. Et donc voilà. Donc on passe au premier sujet du podcast. Le premier sujet, c'est quoi ? C'est ces nouvelles maladies pour votre que votre médecin pourra vous prescrire. Enfin, en fait, les maladies pour lesquelles votre médecin pourra vous prescrire du sport. Alors, petite dédicace à un médecin qui est abonné à mon contenu. Je te fais un petit salut puisqu'on en a parlé récemment dans nos échanges de mails. Je pense pas que ce soit une coïncidence. C'est d'actualité puisque le sujet, quand j'ai préparé mes sujets ce matin, j'ai vu qu'on en parlait. Donc, vous savez, j'en avais parlé il y a peut-être même quelques années dans des podcasts où je vous expliquais que le sport pouvait être prescrit par les médecins généralistes en cas de certaines pathologies. Mais aujourd'hui, en fait, l'éventail s'élargit. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus pour le diabète, je crois, pour l'hyper... Non, oui, il y avait d'autres... Il y avait des pathologies précises qui pouvait bénéficier d'une prescription de sport par votre médecin. Et ben en fait, aujourd'hui, là, je vous cite, hein, la proposition de la députée LREM Maud Petit, adoptée par l'Assemblée nationale mercredi 17 mars, va permettre aux personnes atteintes d'hypertension, de diabète, d'obésité ou encore de problèmes de santé mentale de pouvoir se faire prescrire du sport. Cet amendement va aussi permettre aux spécialistes, et non plus seulement aux médecins généralistes, de réaliser ce genre de prescription. Alors, qui sont les spécialistes ? Qu'est-ce qu'un spécialiste ? J'aimerais bien savoir, un spécialiste dans quel domaine ? Parce que, est-ce que moi je suis spécialiste ? Ou est-ce que c'est spécialiste, un médecin spécialiste ? Enfin, qui a une spécialité, quoi. Je sais pas, par exemple, un ophtalmo, un dentiste, enfin, une spécialité X ou Y, ou un gastro-entérologue. Ou... Si c'est ça, enfin, plus large sera le champ, mieux ce sera. Par contre, petit bémol, le sport prescrit par ordonnance ne sera, par contre, pas remboursé. Aucune prise en charge par les mutuelles n'est pour l'instant prévue. C'est bizarre quand même, parce que dans les articles que je récupère, il y a des fautes, alors que c'est censé être des articles de grands médias. Parce que là, c'est aucun prix en charge. Donc c'est aucune prise en charge, on est d'accord. Bon, bref. Je fais plein de fautes moi aussi, mais je suis pas... Moi, j'ai pas une équipe de relecteurs et tout. Logiquement, ce genre de médias doit en avoir. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça ? Moi, je trouve que c'est bien. Mais, il y a toujours un mais, en fait. Quand je vous récupère des articles, c'est que j'ai un mais à dire. Je trouve ça excellent. C'est-à-dire que c'est un pas vers la compréhension par les spécialistes de la santé de commencer à recommander... Alors, ça a été toujours, depuis toujours. Hein, moi, j'ai toujours entendu le médecin... j'ai jamais entendu un médecin dire « ne fais pas de sport et mange mal ». Donc, les médecins ont toujours un discours « manger équilibré, faites du sport ». Je pense qu'ils savent tous aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de... Enfin, bon. Mais, et parce qu'il y a un mais, il ne faut pas oublier qu'on est en France. En France, quasiment... Tous les soins de santé qui sont reconnus, en tout cas qui sont bien ancrés dans la littérature scientifique et tout ça, qui fonctionnent, on va dire, sont quasiment tous remboursés ou en partie. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si vous allez faire une séance de chiropracteur, avec un chiropracteur ou un ostéopathe, si vous avez une bonne mutuelle, il y a de fortes chances qu'elle vous prenne en charge une, deux ou trois séances par an. Donc on a quand même une bonne prise en charge de ce côté-là. Après, si vous avez des problèmes de santé plus sérieux, il y a les traitements et tout, on a beaucoup de remboursements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, moi, j'ai un problème avec cette politique de remboursement. On va en parler un petit peu après. Je trouve ça génial qu'on soit tous remboursés pour les soins de santé ou en partie, qu'il y ait une prise en charge. C'est très bien, je veux dire, voilà, la médecine coûte cher, il faut dire ce qui est. Enfin, si on devait payer une nuit d'hospitalisation, etc., vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous alliez dans un grand hôtel avec votre chérie, spa compris, etc. Donc c'est très cher et heureusement qu'on a des prises en charge qui ne sont pas forcément gratuites hein, parce que la sécu on la paye et vos mutuelles vous les payez hein, donc c'est pas un cadeau qu'on vous fait. La sécurité sociale existe mais c'est en fait tout simplement une forme de discipliner des personnes qui ne seraient pas capables de se discipliner pour mettre de côté pour justement se payer des frais de santé. Donc la sécurité sociale et les mutuelles sont là, nous sont imposées pour que justement il y ait moins de problèmes de personnes qui puissent, enfin qui seraient à la rue et malades. Il y a quand même une prise en charge, on est d'accord. Il y a quand même une aide du gouvernement, mais on paye tous mensuellement la Sécu et notre mutuelle. Bon, c'est pas le sujet. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette politique où on croit, beaucoup de personnes pensent que, vu que c'est remboursé, c'est gratuit. Non, comme je viens de dire, c'est pas gratuit puisqu'on le paye. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte d'une chose, mais moi, par exemple, ça m'arrive d'aller à la pharmacie et, par exemple, je vais acheter des probiotiques. Vous savez, quand vous avez un petit rhume ou que vous avez, des mal au ventre ou autre, vous pouvez prendre des probiotiques parce que ça agit sur le système immunitaire ou quoi. Bon, ben moi, ça m'arrive, le réflexe, quand j'ai eu ça, bon, ça m'arrive rarement, hein, je vous le dis honnêtement, mais quand ça m'arrive, bon, ben, petite cure de probiotiques, classique, quoi, pour essayer de repeupler un petit peu les bactéries au niveau de la sphère digestive après une infection X ou Y. Notamment, alors moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris, mais pour les personnes qui prennent des antibiotiques, c'est de plus en plus recommandé, et même par les médecins et tout, de prendre en parallèle un probiotique, et pas après. Mieux vaut le prendre pendant, c'est quand même mieux. Et pendant et après, quoi. Et pourquoi j'en viens là? Parce que moi, le pharmacien ou la pharmacienne me dit, par contre, c'est pas remboursé. Non, mais en fait, je m'en fous que ça soit remboursé ou pas. Comme si, parce que c'est pas remboursé, je vais pas me soigner. Mais et c'est là où en fait où on tombe dans le truc où c'est un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais vu qu'on est habitué à ce que ce soit remboursé, dès que c'est payant, on veut pas. Mais c'est-à-dire que la santé n'a pas, enfin la santé vaut rien pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de mettre 2-3 euros pour un probiotique, quoi. Et c'est là où j'en viens à cet article-là dont on parle. Le sport prescrit par ordonnance ne sera par contre pas remboursé. Aucune prise en charge par les mutuelles n'est pour l'instant prévue. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête du Français qui a l'habitude de se faire tout rembourser et qui se... Enfin, moi, j'entends autour de moi, ouais, mais par contre, j'ai acheté celui-là, mais il n'est pas remboursé. Hein. Ou alors, il est remboursé qu'à temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cet amendement, il est bien, là. Enfin, cette proposition, c'est bien. Mais à partir du moment où on va vous recommander un truc, donc vous prescrire par ordonnance, hein. Donc c'est-à-dire que votre médecin va vous mettre sur ordonnance... de l'activité physique. Donc, faites de la musculation, admettons. Ouais, vous avez votre ordonnance. Vous allez aller dans la salle de muscu à côté de chez vous pour vous entraîner, pour vous inscrire. Bah, qu'est-ce qu'il va faire le patron de la salle ou celui qui est à l'accueil? Votre ordonnance, en fait, il n'a pas besoin de l'avoir puisque ça ne sert à rien pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas à vous rembourser. Donc en fait, l'ordonnance, déjà, gardez-la pour vous, parce que si vous avez un problème de santé mentale, admettons, je sais pas moi, dépression, anxiété sévère ou autre, vous n'avez peut-être pas envie que le patron le sache, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune prise en charge. Donc je ne comprends pas bien où ça veut aller, ce truc-là. Parce qu'une ordonnance, en fait, pourquoi? Une ordonnance vous donne accès à quelque chose que vous ne pouvez pas acheter sans un avis médical. Exemple, des médicaments, des choses comme ça. Bon, le sport, on peut tous y accéder. Enfin, vous êtes d'accord, on peut tous aller à la salle de sport. Donc, pourquoi cet article m'a semblé intéressant? C'est qu'en fait, il corrige que la moitié du problème. La moitié du problème, c'est que oui, les médecins, aujourd'hui, s'ils peuvent dire « Bon, là, il faut vraiment faire du sport, je vous l'ordonne sur une ordonnance. » Mais il faudrait peut-être que des mutuelles soient plus, comment dire, et un éventail plus large d'activités prises en charge. Et je ne dis pas qu'elles doivent rembourser tout, mais elles peuvent au moins rembourser une partie de l'abonnement. Donc au lieu d'avoir un abonnement à 19 ou 30 euros par mois, eh ben, ça leur revient à 15 ou 12 euros par mois. Un petit truc, un petit geste. Ce serait bien. un petit truc pour que les personnes et là, parce que forcément ces personnes-là, ça sera pas, elles vont pas s'y mettre par passion, elles vont s'y mettre par devoir pour leur santé. Donc il faut que tout le monde se mette un petit peu, voilà. Alors encore une fois, je vais pas passer trop de temps, mais on a tous une forme de responsabilité face à notre état de santé. Faut arrêter d'accuser les autres je veux dire, si on est dans la situation dans laquelle on se trouve, il faut arrêter d'accuser les autres, quoi. À un moment donné, il y a quand même ce côté où moi je préfère être responsable, enfin me sentir responsable de mon état plutôt que d'accuser quelqu'un d'autre, enfin parce que c'est pas l'autre qui va m'apporter une solution. Donc pour moi c'est une avancée, mais ça prend du temps pour que ça soit bien ancré. Et je pense que si on remasterisait un petit peu la politique de remboursement, y a peut-être des choses qui mériteraient d'être moins remboursées et des choses qui mériteraient de l'être plus. Et peut-être d'encourager un style de vie un petit peu plus sain, ça mériterait dans un premier temps de le récompenser par un remboursement partiel. Vous savez, il y a une étude qui a été faite sur des singes. Et les singes devaient ranger, je sais plus trop quoi, enfin faire une tâche qui était dérangeante, je sais plus, c'était une tâche où ils devaient ranger quelque chose, je crois. Et pour les récompenser, on leur donnait une cacahuète. Et ben au bout d'un certain temps, ils faisaient automatiquement, c'était devenu une habitude, sans cacahuète. Donc ils faisaient une tâche qui était pour eux au début compliquée, sauf que ça devenait automatique, et ils n'avaient plus besoin de récompense. Donc peut-être qu'on peut appliquer la même chose aux êtres humains qui ne sont pas disciplinés de ce côté-là, alors qu'ils devraient par rapport à leur état de santé. Au début, on leur donne une récompense, et puis au bout des trois premières années, je compte large, hein, au bout de trois ans, quand ils sont habitués, on lève le remboursement. C'est bon, maintenant ils sont habitués et ils pourront peut-être plus s'en passer parce qu'ils auront des bons résultats, ils seront en bonne santé physique, etc. Bref, je m'attarde pas plus, je pourrais en parler des heures. Je trouve ça, c'est toujours... voilà. C'est très bien, mais il faut aller au bout, il faut aller encore plus loin, il faut creuser, il faut avoir d'autres idées, il faut prendre au sérieux ce sujet quand même de la santé, de toutes ces maladies de santé modernes qui sont beaucoup liées à notre putain de mode de vie de merde. Il faut prendre plus au sérieux que des débats de chiottes qu'on peut avoir en ce moment sur savoir... je vais pas me lancer là-dedans, mais bon, bref. Deuxième article, manger moins de glucides conduit à brûler plus de calories. Je bois un petit coup d'eau. Alors, les résultats de l'étude, encore une fois, vous avez les liens dans les notes. Les effets sur le métabolisme de base de l'alimentation pauvre en glucides dans les essais court et long terme étaient de moins 14,5 calories par jour et de moins 50 kilocalories par jour, respectivement. Les chercheurs expliquent que pour les études plus longues, il y a une meilleure cétoadaptation. Okay, c'est-à-dire une meilleure utilisation par le corps des matières grasses comme source d'énergie. Pour les essais supérieurs à 2,5 semaines, le régime pauvre en glucides augmente le métabolisme d'environ 50 kcal par jour pour chaque diminution de 10% de glucides. Donc en gros, quand on baisse les glucides, le métabolisme peut augmenter, mais moi, il y a un truc assez simple à comprendre. Quand on cherche à diminuer les glucides, par exemple, là, il parle de cétoadaptation, ça veut dire qu'on va utiliser des lipides à des fins énergétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il y a une règle de base, c'est que 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, forcément, les graisses étant plus caloriques, si vous êtes bien adapté à brûler des graisses, donc céto-adapté, forcément, vous brûlez plus de calories puisque la matière première que vous brûlez est plus calorique qu'avant. C'est-à-dire que la matière première avant, c'était des glucides, admettons. Aujourd'hui, ce sont des graisses. Et si cette matière-là, vous en brûlez autant, ben oui, vous en brûlez peut-être autant, mais la valeur calorique de base d'un gramme de graisse est plus élevée qu'un gramme de glucides. Petite chose que j'avais envie de développer avec vous, il faut faire attention parce que il y en a qui vont se dire, donc moins je vais manger de glucides, mieux ce sera. Il faut faire attention parce que on parle évidemment d'une alimentation qui n'est pas ultra restrictive comme une sèche extrême de muscu fitness, hein, parce que là, dans tous les cas, votre métabolisme à terme, il va se mettre à ralentir. Autre chose, vous savez qu'une calorie, beaucoup de personnes comptent les calories. Alors moi, j'ai un problème avec ça, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les personnes qui comptent les calories, c'est très bien, bon, voilà, il y en a qui sont cartésiens, ils ont besoin de tout compter, et si ça les motive, je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais juste induire dans leur esprit une petite notion différente, et vous allez voir que peut-être vous allez avoir besoin de réécouter plusieurs fois pour comprendre ma pensée. La valeur calorique d'un produit, ça n'est pas ce qu'elle contient en termes de calories. C'est en fait le potentiel de calories, enfin le potentiel calorifique une fois que vous l'aurez ingéré. Donc c'est-à-dire que ça, c'est le potentiel d'énergie calorique. Donc par exemple, un morceau de saumon, c'est le potentiel. Donc c'est la quantité de réchauffement que vous allez devoir produire pour arriver à la valeur calorique de votre morceau de saumon. Donc vous, votre corps va devoir produire X calories de chaleur, de perte de chaleur, pour brûler l'équivalent de votre morceau de saumon que vous venez de manger. Ben en fait, j'ai un problème avec ça, avec la valeur fixe de calories par aliment. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les aliments, enfin par exemple que ce saumon-là fait, je sais pas, par exemple 200 calories, chez tout le monde, pour tout le monde? Hey, moi j'ai un bug avec ça, et j'explique pourquoi. Admettons, moi, je tolère très bien le saumon, mais je n'ai aucune idée de comment, est-ce que j'ai l'intégralité du saumon va être assimilée par mon corps. J'en sais rien. Admettons, une personne qui aurait un transit intestinal extrêmement rapide, voire peut-être même une petite pathologie, donc je sais pas, par exemple maladie de Crohn ou quoi, lui quand il mange un plat de pâtes, est-ce que son plat de pâtes fait 400 calories comme celui qui a une bonne une bonne santé intestinale et qui assimile bien? Est-ce que le plat de pâtes fait à la même valeur calorique pour quelqu'un qui a un métabolisme ultra lent et quelqu'un qui a un métabolisme ultra rapide? Quand je dis un métabolisme, je vais pas dire métabolisme, c'est faux, une digestion. Est-ce que la valeur calorique qui se retrouve dans les toilettes parce que ça s'est digéré rapidement doit rentrer en compte, en ligne de compte ou pas? Donc vous voyez que cette histoire de calories, c'est pour ça que moi j'ai toujours eu un problème avec ça. Hein. À compter les calories. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien ce qui rentre. On le sait, mais ce qui sort directement, ce qu'on métabolise, on n'en sait rien. Donc en fait, c'est une approximation, à mon sens. La valeur calorique d'un produit, c'est le potentiel de chaleur en fait, qu'on va devoir produire, ce que ça va nous apporter. Comme source d'énergie, si vous voulez. Donc, j'ai toujours un petit problème avec ça. Un petit problème, c'est pas un problème, c'est que j'ai du mal à avoir un raisonnement précis par rapport à ça. C'est comme si on me donnait un chiffre faux à la base, comment le calcul peut être juste à la fin, quoi. C'est pour ça que je me suis jamais trop pris la tête avec la valeur calorique. Ça m'a jamais posé de problème, d'ailleurs, pour sécher ou pour prendre du muscle ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a en fonction des aliments et des gens, à mon sens, les calories varient. Donc, il y a une valeur fixe à la base, mais qui va différer en fonction des individus. Ça, c'est mon hypothèse, c'est mon raisonnement, qui n'est pas forcément juste, hein, attention, c'est le mien, mais c'est mon raisonnement. Parce qu'on voit bien que des fois, on peut manger un truc et directement aller aux toilettes après, on sent qu'on l'a pas, c'est pas passé quoi. Enfin, on l'a pas bien métabolisé le machin. Donc, est-ce que les calories, on les a assimilées, on les a pas assimilées, comment ça se passe? On n'en sait rien en fait. Donc, bon, je pense que la vérité est ailleurs. Bref, je bois un coup d'eau, on passe à la suite. On va parler d'une infusion d'ayahuasca. Alors, est-ce que je prononce bien? Je pense pas. Contre la dépression. Alors, vous savez que la dépression, en ce moment, il y a une augmentation de consultations chez les thérapeutes et tout ça pour dépression, avec tous ces confinements, donc moins de liens sociaux, couvre-feu, moins de sorties, isolement chez soi, rumination et tout. Enfin bon, moins de travail pour certaines personnes, moins de sport et tout. En fait, là, vous avez le cocktail au shaker, pas à la cuillère, des bons ingrédients pour avoir une dépression dans le mode de vie actuel. Donc, eux, ils parlent d'une infusion d'ayahuasca, ayahuasca, je ne sais pas comment je pourrais prononcer ça autrement, contre la dépression. Elle fait baisser le taux de protéines C-réactives, dont le niveau est anormalement élevé chez les patients qui ont un état dépressif majeur. Un tiers de ces personnes-là ne répond pas au traitement à base d'antidépresseurs. Et c'est là où justement cette tisane se montrerait efficace, comme l'a montré une étude de l'université de Rio au Brésil. Alors c'est une étude pilote effectuée sur 28 patients atteints de dépression majeure qui sont résistants aux traitements habituels, donc aux antidépresseurs et tout. Les sujets ont bu une infusion, donc cette infusion, puis se sont reposés dans une pièce calme en écoutant des musiques relaxantes. Ils ont fait des analyses sanguines et ça a révélé une chute très nette de la molécule pro-inflammatoire appelée protéine C-réactive, dont les niveaux sont anormalement élevés chez les patients avec un état dépressif majeur. Également, les symptômes dépressifs ont fortement reculé dans les 48 heures qui ont suivi. Et beaucoup plus vite que chez les personnes traitées avec antidépresseurs. Donc en fait, là, vous êtes typiquement dans le cas de ces fameuses plantes, vous savez, dites hallucinogènes. Donc c'est utilisé un petit peu par les chamans et tout ça. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est dans ce genre de choses qu'on va avoir des réponses pour les sujets résistants. Pour ceux qui ont vécu une dépression ou qui vivent une dépression, je sais que vous êtes toujours à l'affût de ce genre de nouveautés. Faites des recherches là-dessus. Faites des recherches là-dessus. Y a des personnes qui se sont également flinguées avec des produits comme ça, donc faites pas n'importe quoi. Moi, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre ni rien, ni même chaman. Donc renseignez-vous, il y a des études sur le sujet, allez voir des spécialistes où c'est encadré et tout, mais bon, voilà, il y a quand même des solutions autres que les... Parce que pour une personne qui est en dépression, qui prend des antidépresseurs et qui, enfin, ça n'arrange rien, et qui, enfin, voilà, qui suit des psy... Enfin, ça peut être au bout d'un moment aussi compliqué qu'une personne qui pourrait tenter de tester ce genre de choses. Donc, à partir du moment où vous êtes bien encadré, parlez-en, testez... Mais soyez toujours vigilant, prudent sur ces plantes-là, parce que, enfin voilà, il faut être encadré. Ça se commande pas sur Amazon comme ça en un clin d'œil. Hein. Faites attention. D'ailleurs, souvent, vous verrez que ce genre de choses, et on en parle beaucoup dans des pays où il n'y a pas de politique de remboursement et tout, parce que justement, acheter des antidépresseurs, par exemple, aux États-Unis, ça coûte pas le même prix qu'en France, quoi. Bon. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même d'actualité, la santé mentale liée au Covid, enfin pas liée au Covid, liée au, comment on appelle ça, aux effets collatéraux du Covid, de la Covid on dit même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'alcoolorexie ? Alors l'alcoolorexie, c'est manger moins pour boire plus. L'alcoolorexie, manger moins pour boire plus, un petit exemple, alors là c'est dans Cerveau et Psycho, je suis abonné au magazine, moi j'aime bien ce magazine-là, et d'ailleurs même au site web. Bérénice est jolie, aime sortir et boire de l'alcool, mais en même temps elle veut rester mince, alors elle mange de moins en moins, et sans le savoir bascule dans une maladie tentaculaire, l'alcoolorexie. Alors l'alcoolorexie c'est quoi ? C'est quand on a envie de garder la ligne, mais qu'on a envie de faire la fête et de picoler. On sait que l'alcool, je crois que c'est l'éthanol, c'est 7 kilocalories pour 1 gramme. Donc du coup, boire apporte des calories, donc potentiellement du surpoids. Donc, ceux qui tombent dans l'alcoolorexie vont, quand ils picolent, manger moins pour compenser l'écart. Donc, on est dans un trouble qui va rejoindre la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, l'alcoolorexie, on a ça maintenant. Bon, on va avoir une pathologie pour tout aujourd'hui, mais tout ça, ce sont des process en fait, de compensation. Je trouve que ceci, moi, je l'ai déjà vu. Alors, moi, j'ai jamais été ni alcoolique, ni alcoolorexique ou quoi que ce soit. Mais je l'ai déjà vu autour de moi que l'alcool aussi a tendance à couper la faim. Souvent des personnes en soirée disent waouh, j'ai la tête qui tourne, j'ai bu pas mal et surtout j'ai rien mangé. Bon, on n'oublie pas de manger par hasard hein, quand on a faim on mange, voilà, moi je sais qu'à 22h si j'ai pas pris mon repas je peux vous garantir que je l'oublie pas, j'ai faim, j'ai la dalle, j'ai envie de manger quoi, je sens qu'il me manque un truc. Je vais pas dire que je suis en hypoglycémie à m'effondrer, mais j'ai envie de manger. Donc l'alcool apporte quand même c'est un effet trompeur au niveau de l'apport calorique et tout ça, ce qui coupe un peu la faim. Bref, et c'est temporaire, puisque le lendemain d'ailleurs on va avoir tendance à plus manger, j'en avais parlé, je sais plus où, mais j'en ai parlé récemment. Donc ce trouble-là, je sais pas si vous le rencontrez, mais c'est quand même une pente glissante et c'est un leurre, parce qu'en fait, de compenser, c'est comme si, pour moi ça rejoint un petit peu... Bah attends, j'ai mangé du Nutella à midi, ce soir je mange pas mes brocolis quoi. Non, faut pas tomber sur cette pente-là. En fait, et ça encore une fois, c'est là où je tire un peu la sonnette d'alarme sur les régimes à points, les régimes où on classe les aliments par valeur, etc. Et donc du coup, si j'enlève 10 ici, je peux rajouter 10 ici. Non. Un brocoli, vous pouvez pas enlever 10 d'un brocoli et rajouter 10 d'un steak. Pourquoi ? Parce que le brocoli et le steak, c'est pas la même chose. L'alcool et le steak, ou l'alcool et le brocoli, c'est pas la même chose non plus. Donc si ce que vous enlevez au niveau de votre alimentation, c'est perdu. En fait, c'est pas... comment dire ? De raisonner en termes de calories, c'est ne pas réfléchir correctement. Ce que vous apporte l'alimentation, il y a de l'énergie, mais il y a aussi une foule de micronutriments, d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux. Et donc, ce qui n'est pas pris, vous ne pouvez pas le compenser en prenant une bière. Hein. La bière vous apportera autre chose, les brocolis vous apporteront autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes connaissances pour vous dire qu'on ne compense pas l'alimentation. On ne peut pas compenser l'alimentation, sauf si on réagit et on raisonne purement en termes de calories. Mais sinon, on ne peut pas logiquement et intelligemment compenser. C'est pas possible. On ne peut pas compenser, et même avec des compléments alimentaires. On peut bricoler avec des compléments alimentaires pour aider un petit peu, mais on ne peut pas réellement compenser. On pourrait pas se nourrir de compléments alimentaires. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Il manquerait des fibres, ne serait-ce que la mastication, quoi. Bref. Donc toute stratégie de compensation alimentaire où on remplace ceci par cela parce qu'on a eu plus de ceci et moins de cela, à partir du moment où c'est enlevé du sain pour ajouter du malsain, tout ça parce que ça rentre dans les calories, on est dans la mauvaise logique. C'est voilà. La seule, pour moi, compensation que je trouve saine, c'est quand on fait un gros repas de fête, le week-end entre amis, ou Noël, ou un anniversaire, ou autre, enfin, des événements ponctuels d'une vie raisonnée, enfin, à mon sens, ou d'un resto improvisé, où votre chérie vous fait une surprise au restaurant le soir. Et ben moi, la compensation saine, c'est peut-être de manger un petit peu plus léger le lendemain. Ça, voilà, mais un peu plus léger. Ça veut pas dire, vu que j'ai mangé calorique la veille, demain, je jeûne, et pour pas me frustrer, je mange uniquement mon chocolat et du coca, quoi. Non, là, c'est con. C'est juste de regarder ce qui est le plus énergétique dans son alimentation du lendemain et d'essayer de calmer un peu. Bon, je vais pas abuser sur les matières grasses et je vais pas abuser sur... Si la veille, j'ai mangé une côte de bœuf d'un kilo deux, le lendemain, peut-être que je vais y aller mollo sur la viande, quoi. Je vais peut-être essayer de me tourner peut-être plus sur des protéines végétales ou d'essayer... Enfin, voilà. D'essayer d'avoir un raisonnement, en fait, cohérent et logique. Ça me semble normal et... pour moi, la compensation saine, c'est ça. Et après, il y a la compensation malsaine où tout apport excessif est compensé trop extrême. Et là, on tombe dans la boulimie. Parce que la boulimie, c'est beaucoup manger suivi de compensation, qui n'est pas que vomir ou se prendre des laxatifs. C'est aussi excès de sport ou jeûne, qui diffère de l'hyperphagie, qui est pareil que la boulimie, mais sans process de compensation derrière. Bref. J'ai une question d'un auditeur et... attendez, je bois un coup et je vous la lis. Alors, qu'est-ce que me dit cet auditeur ? Cet auditeur me pose la question suivante. Salut Théo, quels sont tes conseils pour écouter notre satiété lorsque nous mangeons ? Parfois, j'ai l'impression de trop manger, même si ça reste des aliments peu caloriques. Eh bien, je n'arrive pas à m'arrêter. Merci à toi. Bon. Avant de... Déjà... Je vais te répondre simplement. La diète saine, donc la diète saine, ce que j'entends diète saine, ça veut rien dire en fait. Une diète saine, c'est une diète qui vous est propre. C'est-à-dire la diète qui vous cause pas de trop forts ballonnements, qui vous emmène pas aux toilettes directement, qui vous permet d'avoir suffisamment d'énergie, qui vous permet de prendre du muscle, qui vous permet de ne pas être trop gras, qui vous permet de bien réfléchir et tout. Donc on a chacun notre diète saine. Il y a des grandes lignes hein, quand même. Personne n'a une diète saine à base de coca, de magnum et de shit ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Ce dont tu me parles, la satiété lorsque nous mangeons, en fait, quand on mange sainement, je vais te donner une petite astuce. Il faut savoir un peu cuisiner pour ce que tu manges soit suffisamment plaisant pour que tu ailles à la fin de ton assiette, mais pas trop pour que tu aies envie de te resservir. Je m'explique. Tu as déjà remarqué que quand tu es invité, Non, je vais prendre un autre exemple. Tu as déjà remarqué que, oui, l'exemple de l'invitation est bien. Quand tu es invité chez des gens et que c'est un plat, donc un repas où il y a divers plats, par exemple, tu vois, tu as un peu de pommes de terre, un peu de légumes, un peu de viande, et puis à l'apéro, tu as divers choix de choses, des petits feuilletés, des machins, un peu de charcuterie et tout, tu verras qu'en fait, tu manges beaucoup plus parce qu'il y a la curiosité de tout goûter. Un petit peu pareil que si tu vas dans les restos chinois à volonté, chinois, asiatique ou ce que tu veux, tu manges plus parce que il y a du choix devant toi et t'as envie de tout goûter. Et ben en fait, ça c'est l'extrême de notre cerveau, il a envie un petit peu de tout tester. Donc il faut comprendre ça et se dire que quand on va manger, il y a un moment donné où on n'a plus faim, mais la curiosité ou le trop fort attrait gustatif, le trop fort désir va nous faire nous resservir alors qu'on a réellement plus faim. À l'inverse, vous avez déjà dû remarquer que quand c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, vous pouvez avoir faim, vous n'allez même pas aller au bout de votre assiette, vous allez être écœuré. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Si tu veux réussir à écouter ta satiété, il faut que tu manges quelque chose qui te plaise, parce que c'est le but, c'est pas non plus de manger des trucs dégueulasses que tu n'aimes pas, donc te forcer à manger des aliments que t'aimes pas, te forcer à manger par contre des aliments sains, oui, mais que tu n'aimes pas, non, donc de commencer par des aliments et que tu aimes et que tu sais qu'ils sont sains. Mais pas non plus de faire quelque chose de tous les jours, quelque chose que tu adores, parce que sinon tu vas être trop tenté de te resservir et donc du coup la première assiette, ok, là ta satiété est là, la deuxième c'est de la gourmandise. Donc la satiété peut se manifester également quand tu arrives à table et que tu prends ton temps. Donc déjà de ne pas manger en 5 minutes, mais de plutôt manger en 10, 15, 20 minutes. Donc pour ça, je te recommande alors pas les stratégies ou de poser la fourchette à chaque fois parce que personne ne le fait, mais déjà d'éviter d'être stimulé au niveau de la vision, donc de ne pas regarder la télé. Si chez toi ça te préoccupe trop ou ton smartphone, mets-toi un podcast par exemple, comme ça tu peux regarder un petit peu ailleurs, ou alors de discuter avec un ami ou ton collègue de travail ou autre. Mais d'éviter d'être stimulé par un truc, tu sais, qui te prend, qui te booste ta dopamine et tout, ou de slider sur Facebook, ça y a rien de pire parce qu'en fait tu te rends même pas compte que tu manges. J'avais autre chose à te dire par rapport à ça, mais souvent les personnes qui ont du mal à se restreindre et qui se resservent alors qu'ils ont pas faim, c'est souvent des personnes qui tardent trop à manger, c'est-à-dire qu'ils vont attendre vraiment la limite où ils ont vraiment trop la dalle pour manger. Donc ça, pour ça, discipline-toi à manger par exemple le midi, mange à midi. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore salarié, ça avait un peu la cote de manger à 13h ou 14h. Tu sais, c'était les gens qui bossaient, là, sérieux, ils étaient pris, donc eux, ils ne pouvaient pas manger avant 13 ou 14 heures. Mais c'est con, en fait, de faire ça, et c'est pas intelligent du tout, parce que du coup, t'arrives à 13, 14 heures, t'as hyper faim, t'es complètement en hypoglycémie, donc ton taux de glucose, il est bas, et donc du coup, quand tu vas te retrouver à la cafette, au self, tu vas taper dans les trucs qui sont pas bons pour ton tour de taille et pour toi, donc tu vas avoir un coup de barre monumental après, et tu serviras plus à rien. Donc tu vas prendre des mauvaises décisions et ta société elle va s'effondrer, enfin en tout cas ça sera de la merde quoi. Et donc du coup ceux qui sont les plus intelligents c'est ceux qui mangent avant d'avoir trop faim. Donc du coup ceux qui vont aller à la cafette ou quoi, ou qui vont choisir de prendre leur pause à 11h30 du matin à midi, eux c'est bien parce qu'ils arrivent pas avec une faim déraisonnable, ils arrivent avec une faim raisonnable et donc du coup ils sont encore capables de prendre des bonnes décisions s'ils vont au self ou de s'arrêter de manger quand ils ont réellement plus faim. Donc voilà les petites astuces que je peux te donner à mettre en place dès aujourd'hui. Sache que si toi tu prends ta pause en premier, et souvent vous regarderez dans les grandes entreprises, ceux qui mangent en premier, c'est les cols bleus, même si aujourd'hui on n'a plus le droit de le dire, et les cols blancs mangent après. Et si vous êtes col bleu, vous avez la bonne stratégie. C'est-à-dire que c'est vous les plus intelligents en fait, parce que vous mangez avant, et donc du coup, non seulement les cols bleus ont plus d'activité physique souvent, mais en plus, vu qu'ils mangent plus tôt, eh ben, ils n'auront pas de problème de se resservir, d'arriver avec un manque de volonté dramatique au moment de manger. Donc la stratégie pour ça, c'est de laisser aux gens la liberté de prendre leur pause déjeuner quand ils le souhaitent. Et de surtout, de ne pas rester des trop longues périodes sans manger. Pourquoi ? Parce que quand vous allez arriver au repas suivant, alors si vous n'avez pas le choix, si toi tu n'as pas le choix, tu me dis « Ouais, mais Théo, moi t'es bien gentil, mais moi je peux pas manger quand je veux. » Eh ben, prépare ta gamelle à l'avance et mets la dose qu'il te faut. Donc prépare ta gamelle à l'avance avec la dose qu'il te faut et pas plus. Si tu as des problèmes de satiété, c'est que forcément tu as du choix, c'est-à-dire que tu as le choix de manger plus. Moi je me rappelle quand j'étais salarié, j'avais ma gamelle avec ma dose qu'il me fallait, si je terminais le repas avec un peu la faim au ventre parce que j'avais mangé trop tard par rapport aux missions que j'avais, et ben c'était comme ça. Et sache une chose, c'est que souvent on a encore faim à la fin du repas parce qu'on a mangé vraiment trop vite. Donc hydrate-toi, bois beaucoup, prends un petit déca après, et en règle générale ça passe. Mais c'est pas un gros problème hein, la satiété, c'est souvent parce que soit un... ce que tu as mangé ne t'a pas plu assez, donc du coup il te manque la petite note tu vois, de plaisir, donc tu accordes trop de plaisir à la nourriture, soit à l'inverse ta nourriture était trop plaisante et donc du coup tu n'arrives pas à te freiner et tu sais que c'est pas bon. Donc c'est, en fait il faut trouver l'équilibre entre les deux. Quand on se fait à manger soi-même sainement, il faut que ça soit suffisamment bon pour que ça soit quand même plaisant, hein, parce que c'est dégueulasse de manger, enfin je veux dire c'est pas une vie, mais faut pas non plus que ça soit un repas de fête, parce que sinon t'arrives pas à te ménager, t'arrives pas à te contrôler, voilà, et tout ce que j'ai dit avant. Bon, si t'as envie d'aller plus loin avec ça, sache que j'avais fait une formation à l'époque qui s'appelait « Comment écouter son corps comme un pro du fitness », je t'ai mis le lien dans les notes là, où je parle de tout ce genre de choses-là. Et donc voilà. Bon, j'ai fini pour l'épisode du jour. N'oubliez pas ce fameux mouvement avec kettlebell là, pour corriger et pour brûler, enfin pour corriger pas mal de faiblesses musculaires et surtout pour brûler beaucoup de calories. Bah, tu l'as disponible là dans les. D'ailleurs, j'en ai fait hier et j'ai brûlé 100 calories en 8 minutes. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Enfin moi je trouve que c'est beaucoup. Et donc je te mets le lien, tu peux aller voir ça. Et puis tout ce que j'ai dit là, toutes les... je m'étouffe, ça c'est parce que j'ai la gorge sèche à force de parler. Donc je bois un coup. Donc tout ce dont j'ai parlé, les liens, les articles et tout, les sources, tu as tout également dans les notes de l'émission. Je vous remercie pour votre fidélité, on se retrouve mardi prochain à 8h pour le prochain épisode, salut.